Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau rendez-vous économique du Cercle Turgot avec deux éminents spécialistes du Cercle. Nicolas Bouzou, qui est président d'Asterès et qui est aussi un chroniqueur très réputé et très visible. Et Christian Saint-Étienne, professeur d'université, auteur et qui vient d'être distingué par le prix Turgot au titre de l'ensemble de son œuvre, ceci tout récemment à Bercy. Donc bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Très heureux de vous accueillir. Alors, nous allons nous poser une question qui est peut-être paradoxale, mais je vais vous dire pourquoi nous la posons. Le modèle français doit-il, peut-il inspirer l'Europe ? Alors, tandis que nos confrères, et notamment The Economist, expriment un sentiment largement répandu dans les milieux économiques et financiers d'une France en déni et frivole, avec une campagne qui n'est pas à la hauteur des enjeux, prétendent-ils, deux indicateurs viennent s'inscrire à contre-courant. Le premier, c'est l'assainissement des comptes publics, sans doute encore insuffisant, mais plus rapide que prévu. Déficit prévu de moins de 10 milliards par rapport à ce qui était avancé, c'est-à-dire qu'on est passé à 5,2 contre 5,7 qui était pressenti. Et deuxièmement, une progression de l'activité qui, en 2011, est restée à un niveau, en tout cas au moins supérieur à la plupart des États européens, avec un 7 points par rapport au PIB. Et par ailleurs, le revenu disponible net français sur les 5 dernières années, comme le confirme l'évolution du pouvoir d'achat au cours du dernier trimestre et sur l'année 2011, a progressé plus rapidement en France, 3 points en 5 ans, qu'en Allemagne, par exemple, où il a progressé simplement que de 2 points. Donc, la France paraît donc avoir évité le piège de la récession entre rigueur et relance. Et est-ce durable ? Et surtout, peut-on éviter de se focaliser sur les autres points noirs, les grands oubliés de la campagne, à savoir la dette publique qui enfle encore puisqu'elle a atteint 86% du PIB, soit cette année de recettes fiscales, et des dépenses publiques hypertrophiées qui ont encore largement progressé au cours des 10 dernières années, mais qui, sur la dernière année, ont légèrement baissé, puisqu'elles sont passées un petit peu en dessous de la barre des 56%. Alors, et surtout, et on va peut-être commencer par là, avec un risque de contagion qui semble apparaître à travers les tensions nouvelles sur les marchés des dettes souveraines qui frappent à nouveau l'Italie, l'Espagne, le Portugal, et qui semble jusqu'à présent encore avoir un petit peu épargné la France. Donc, est-ce que ce modèle français, finalement, qui semble s'en tirer un peu mieux que les autres dans cette période, pourrait inspirer l'Europe ? Et est-ce que, par contre, commençons par là, le contexte que je viens d'indiquer sur les dettes souveraines est de nature à tout remettre en question ? Alors, commençons avec peut-être Christian Saint-Étienne, que je vois impatient de rebondir.
Je vous écoute avec attention. Simplement, je pense que les bons chiffres que vous venez de dire sont en fait en partie à crédit. C'est-à-dire qu'on a distribué du pouvoir d'achat à crédit. Et la contrepartie, c'est une très forte montée de la dette publique. Effectivement, elle est autour de 87 points de PIB, doit atteindre à la fin 2012 89, voire, disons pour simplifier, 90 points de PIB. Donc nous avons eu une augmentation de la dette publique française sur la période 2007-2012 de plus de 20 points de PIB. Et c'est cette augmentation de l'endettement qui a permis de financer l'augmentation du pouvoir d'achat. Mais à l'inverse, je pense que la France vit une situation économique assez difficile. Nous venons de perdre, sur la période 99-2011, 42% de nos parts de marché à l'export au plan mondial. Donc c'est une véritable déroute. Jamais en temps de paix, depuis le début de la révolution industrielle, nous avions perdu des parts de marché à ce rythme et avec cette ampleur. Et on pourrait dire que c'est le fait de l'euro, mais les parts de marché de la France dans les exportations de la zone euro ont baissé d'un quart. Donc, nous avons une situation extrêmement difficile. La part de la valeur ajoutée industrielle dans le PIB au cours de la même période a baissé de 30%. C'est la plus forte désindustrialisation observée dans l'OCDE. Donc, on est dans une situation tangente. En fait, la France est un peu comme une vieille famille qui vend des fermes pour payer le train de vie quotidien. Mais à un moment donné, il n'y a plus de fermes à vendre. Et à ce moment-là, la duchesse doit réapprendre à aller travailler. Et le duc doit prendre une agence de vente de biens immobiliers et commencer à aller parler aux vendeurs et aux acheteurs potentiels dans un changement de relation majeur. Et je pense que la France est à la veille d'une remise en ordre de ses comptes qui viendra, je pense, non pas de décisions rationnelles, malheureusement, puisque la campagne montre que nous sommes rentrés dans une phase irrationnelle et surtout émotionnelle d'analyse des choses. Il y a une combinaison de réactions émotionnelles et de frustrations dans le pays qui font que quand on va être confronté à la réalité des chiffres que je viens de donner au second semestre, après le bal de l'élection présidentielle et législative, on risque d'avoir des réveils douloureux.
Donc vous ne retenez pas donc, comme un point très sensible d'amélioration les indicateurs que je viens de souligner, aussi bien en termes de croissance du PIB que du pouvoir d'achat qui reste encore...
La hausse du PIB, elle traduit les premiers effets minuscules de mesures prises depuis 2005 sur les pôles de compétitivité, le fonds stratégique d'investissement, un ensemble de mesures qui ne continuera à payer que si on en multipliait l'ampleur par un facteur de 10 et au cours des 10 prochaines années. En fait, si vous voulez, la France a posé son sac stratégique et a cessé d'investir et a cessé d'être dans la compétition mondiale de façon extrêmement forte depuis une vingtaine d'années. Tout ça en relatif, évidemment. Ouais, c'est-à-dire que nous sommes beaucoup moins dans la volonté d'améliorer notre compétitivité, de développer l'emploi productif marchand que les Allemands, les Japonais, les Coréens, les Américains, les Anglais, les Belges, les Hollandais, ainsi de suite. Donc en relatif, nous avons perdu massivement en part de marché, donc 40% en 12 ans, ça s'était jamais vu. Je signale que le 100% qu'on avait il y a 12 ans, il avait fallu 2 siècles de révolution industrielle pour le construire. Et on dilapide en 12 ans 40% de ce qu'on avait construit en 2 siècles. Donc le choc est extrêmement considérable. Et donc je pense que les chiffres que vous avez montrés montrent néanmoins une autre facette des choses. C'est-à-dire que la France n'est pas à la veille d'un moment grec. Nous avons une certaine puissance, nous avons surtout un énorme capital humain, nous avons encore des moyens financiers significatifs. Ce qui est problématique en France, c'est la vision du monde, c'est la carte que nous avons dans la tête. Il y a eu un livre récent qui a eu un prix Goncourt qui montrait que dans la vie, il vaut mieux se déplacer en fonction de la réalité des choses plutôt que d'une représentation de la réalité. Et le problème, c'est que la France a un problème de représentation de réalité.
Ouais. Et un ressenti qui est très loin du réel.
Et donc, il faudra un choc pour changer cette représentation. Mais une fois qu'on aura changé cette représentation, les atouts actuels peuvent nous permettre de rebondir assez vite.
Bon, je me retourne vers notre ami Nicolas Bouzou. Alors, quel est votre regard, et notamment sur un point d'actualité qui vient alourdir encore le contexte que vient de souligner Christian Saint-Étienne, à savoir les tensions nouvelles sur les dettes souveraines européennes qui commencent. Alors, la Grèce, n'en parlons plus, si je puis dire, ils sont vraiment au fond du fond, mais les pays qui paraissaient redresser la tête souffrent.
Oui, alors je vais peut-être juste faire d'abord un tout petit retour en arrière sur la France, parce qu'il y a quand même un point aussi qu'on pourrait aborder, qui mérite de l'être, et d'ailleurs dont on parlait assez peu dans la campagne, c'est celui de l'emploi. C'est-à-dire que, évidemment, cette croissance économique, en effet, elle est peut-être un petit peu plus forte que ce à quoi on pouvait s'attendre il y a 6 ou 8 mois, mais on voit bien quand même qu'on reste dans une zone de sous-emploi absolument massive et qui maintenant dure depuis des dizaines et des dizaines d'années. Sur la question de la réduction des déficits publics, c'est vrai que les déficits publics ont été réduits de façon relativement sensible cette année, mais il faut bien comprendre qu'on part de niveaux extrêmement hauts. Et même si on reste à 5%, à peu près, si on veut stabiliser la dette, on doit encore mettre en œuvre un effort qui est absolument considérable. C'est-à-dire que le chiffre qu'on peut avoir en tête, c'est que si on veut commencer à réduire la dette, il faut un déficit public qui approche des 1% du PIB. Certains pays y sont, un pays comme l'Allemagne y est, la France n'y est pas. Et si la France a réduit son déficit public, c'est vrai, hein, c'est tout à fait juste, dans des proportions relativement importantes cette année, il faut bien comprendre d'où ça vient. Et ça vient en réalité de hausses d'impôts qui ont été relativement fortes, en effet d'une croissance peut-être un petit peu plus forte que ce qu'on pouvait imaginer, et puis d'une baisse de dépenses publiques, mais qui correspond plutôt à des coupes claires dans les budgets, à ce qu'on a appelé la revue générale des politiques publiques, etc. Mais ça ne procède pas de réformes véritablement importantes et qui sont capables d'avoir des effets importants dans le temps. Parce qu'au fond, quand on parle des questions de finances publiques en France, on parle essentiellement des questions de dépenses. Les recettes sont déjà élevées, les taux de prélèvements obligatoires sont déjà relativement lourds. taux de prélèvement obligatoire fonctionne avec des rendements décroissants. Donc on peut augmenter un peu les impôts, certains impôts à base fiscale extrêmement large, la CSG, la TVA, etc. Mais on n'a pas de marge de manœuvre extraordinaire de ce point de vue-là. Donc les marges de manœuvre sont plutôt sur la dépense qui, même là encore, si elle est en baisse, reste quand même extrêmement importante. Et la dépense en France, c'est pour l'essentiel, quasiment pour la moitié en vérité, des dépenses sociales. Et donc les vrais sujets qui devraient nous occuper aujourd'hui, ce sont les sujets de réforme des retraites, de réforme des systèmes de santé surtout, qui me semble être le sujet absolument numéro un. Vous avez un rapport qui a été rendu par le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie il y a quelques jours, qui nous explique que l'assurance maladie est dans une situation quasiment comparable à celle de la Grèce, si vous voulez, financièrement. Donc là, on a de véritables sujets. Alors tout ça, en effet, dans un environnement européen qui a plutôt eu tendance à se dégrader ces dernières semaines, avec des inquiétudes sur l'Espagne et puis, depuis quelques jours, à nouveau sur l'Italie. Alors, sur l'Espagne, les finances publiques espagnoles n'ont pas été mal gérées ces dernières années. Le problème de l'Espagne est vraiment non pas un problème de dépenses publiques d'une certaine façon, mais un problème de recettes et de croissance. C'est-à-dire qu'après l'éclatement de la bulle dans le secteur de la construction, etc., on a du mal à imaginer ce qui pourrait produire de la croissance rapidement, c'est-à-dire dans les 6 ou 12 prochains mois, en Espagne. Et donc, bien évidemment, ça pèse sur l'idée qu'on peut avoir de la solvabilité de l'État espagnol. L'Italie, c'est un peu différent. L'Italie a mis en place des réformes qui sont relativement importantes, hein, notamment réforme du marché du travail. Mais bon, ce sont des réformes qui mettront un certain temps à avoir des effets. Et puis, on est quand même, et bien heureusement, dans des démocraties avec des corps intermédiaires, des partenaires sociaux, etc. Donc, tout ça est un peu compliqué. Et en effet, on est dans un climat qui reste, de ce point de vue-là, extrêmement
anxiogène. Donc, l'acceptation par la société civile de ces mesures qui semblent s'imposer, alors aussi bien au niveau de la baisse des dépenses publiques qu'au niveau de la hausse des impôts, est de plus en plus difficile. Et d'autant que nous sommes en campagne présidentielle qui a évité soigneusement un certain nombre de points qui pourraient fâcher, notamment sur les dépenses publiques et les dépenses sociales.
Oui, mais ça, c'est... Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Christian, mais très honnêtement, je vais peut-être vous sembler naïf, mais c'est un peu une surprise pour moi. C'est-à-dire que j'avais quand même la naïveté de penser que l'opinion publique avait bien compris les questions de finances publiques. On voit bien, on regarde la télévision, donc les gens voient ce qui se passe dans des pays qui sont des pays assez proches de nous. Et je suis très étonné de voir que, depuis quelques semaines, on a une inflation de dépenses chez la plupart des candidats que je trouve extraordinaire et qui, d'après ce que j'en comprends, je ne suis pas spécialiste des sciences politiques, mais qui ne me semble pas être sanctionné par les électeurs. Et je dois avouer que je trouve ça plutôt étonnant.
Christian, peut-être une remarque sur ce point, c'est-à-dire sur l'insensibilité, en quelque sorte, de la société civile par rapport à ces évidences d'efforts qui sont devant nous.
Alors, il y a une nouveauté par rapport à même 2007, c'est que les deux principaux candidats annoncés par les sondages pour le second tour annoncent tous les deux des réductions de déficit significatives, mais essentiellement par des hausses d'impôts. Dans le cas de l'un des deux candidats, il annonce simultanément 20 milliards de hausses de dépenses nouvelles et 45 milliards de hausses d'impôts. Donc un choc fiscal extrêmement fort, qui évidemment devrait conduire à une baisse comptable du déficit, mais dans un contexte où on va encore rajouter à la dépense publique. Or, la dépense publique en France, elle vient de baisser microscopiquement, mais donc elle est à 56 points de PIB.
Oui, c'est 0,6, quoi.
Voilà, c'est 8 points de PIB de plus que la moyenne des autres pays de la zone euro. Et c'est vraisemblablement 8 points donc, pour l'année 2011. Et on est parti pour faire 9 points d'écart. Je parle de l'écart de la dépense publique française par rapport à la moyenne des autres pays de la zone euro avec lesquels on partage la même monnaie, les mêmes taux d'intérêt, les mêmes taux de change. Et par ailleurs, on est dans le même marché unique. Donc 9 points d'écart, ça se traduit nécessairement par des prélèvements du même ordre, tout à fait considérables. Or, il faut savoir que le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. Donc si vous avez 9 points de PIB de prélèvement de plus, vous avez nécessairement des charges énormes qui portent sur la valeur ajoutée. Et donc, on se retrouve dans une situation où tous ceux qui veulent créer des entreprises en France ou les entreprises existantes sont obligés de faire de la surproductivité par rapport à l'Allemagne ou à l'Italie, simplement pour pouvoir continuer de vendre à des prix comparables aux autres sur le même marché. Et le problème, c'est que ce qui est emploi marchand compétitif en France se rétracte, ce qui fait naître un sous-emploi massif. Nous avons aujourd'hui un taux d'emploi par rapport à la population active résidente sur le territoire national qui est extrêmement faible, de l'ordre de 40%. Il est proche de 50% en Allemagne et au Royaume-Uni et supérieur à 50% au Japon et aux États-Unis. Donc imaginez l'impact que ça aurait si on avait un taux d'emploi équivalent à celui de nos principaux compétiteurs. Ça ferait 6 millions d'emplois de plus. On sait que nous avons 4 millions de chômeurs déclarés plus ou moins, plus un sous-emploi significatif. Vous réduiriez, vous élimineriez toute cette masse de gens qui sont extrêmement frustrés. Mmh. Vous créeriez à ce moment-là des rentrées fiscales énormes et du fait de l'augmentation de l'emploi, vous réduiriez les prestations. Donc la vraie question, c'est comment rebâtir une économie compétitive avec un emploi marchand qui permettent de payer les dépenses du pays.
Alors, il y a un point sur lequel j'aimerais vous entendre, mais très très brièvement, c'est qu'il semble que le modèle de production d'activité français, la déformation de la structure de cette production, soit en train de produire moins proportionnellement de recettes fiscales que par le passé. Et il semble que certaines évaluations montrent que, uniquement sur l'année 2011, le type de production de français a engendré moins de 25 milliards de recettes fiscales que le modèle précédent, qui était plus basé sur l'activité financière, sur etc., enfin tout ce que l'on connaît avant la crise. Donc il y a ce nouveau défi qui fait que, dans l'état actuel de la production française, on génère moins de recettes et que donc on pouvait considérer qu'on pouvait hésiter entre réduction des déficits et augmentation des impôts. Ce choix est de moins en moins possible puisque des deux côtés, il va falloir aller chercher des choses.
Je crois, et puis vous savez, l'OCDE vient d'avoir un rapport toujours intéressant sur la consolidation des finances publiques dans les grands pays de l'OCDE, justement. Et je crois qu'il ne faut pas se dire où est-ce qu'on va mettre le curseur entre rigueur et croissance, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne façon d'aborder la question. Je crois que la question, c'est plutôt de se dire comment est-ce que l'on fait pour faire en sorte que l'assainissement budgétaire... Moi, je ne parle pas de rigueur ou d'austérité, je parle d'assainissement. Comme ça, c'est au moins c'est une vertu un peu plus positive. Déjà, on commence par là. Ouais. Et comment est-ce qu'on fait pour que cet assainissement budgétaire il soit favorable à la croissance ? L'OCDE, j'ai bien aimé, alors c'est de la rhétorique, mais enfin, on est dans un pays littéraire, parle d'économie porteuse de croissance. Voilà. Je pense que c'est un concept, en effet, qui est assez intéressant. Et on retrouve, me semble-t-il, l'opposition entre justement la rigueur un peu bête et méchante qu'on a fait sur l'exercice budgétaire 2011. C'est-à-dire, on fait des plans de rigueur à répétition, on invente la taxe soda, etc. Dispositifs qui sont assez mal faits. Alors évidemment, au bout du compte, ça fait quand même un peu de rentrée fiscale, mais en effet, avec un rendement finalement qui est assez faible parce que tout ça n'est pas véritablement pensé, n'est pas véritablement réfléchi. Et en matière de fiscalité, si vous voulez, la grande difficulté, c'est pour ça que c'est l'un des éléments qui m'amène à penser que l'ajustement se fera plus sur la baisse des dépenses que sur la hausse de la fiscalité. Les impôts qui ont un rendement important en matière de recettes fiscales, ce sont quand même des impôts qu'il est un peu compliqué à manier du point de vue politique. C'est-à-dire, pour le dire clairement, c'est la TVA et la CSG. Et si on veut récupérer plusieurs dizaines de milliards d'euros, il faut les augmenter de plusieurs points chacun, si vous voulez. Donc, ce sont quand même des choses qui sont un peu compliquées. Je crois au contraire qu'il faut plutôt se dire, voilà, comment est-ce que l'on va faire des réformes, par exemple, pour faire en sorte que certains éléments d'activité qui étaient le fait de l'État deviennent le fait du secteur privé. Comment est-ce qu'on va transférer de l'activité du secteur public vers le secteur privé ? Voilà, ça, ce sont, me semble-t-il, des réflexions qui sont plus fécondes.
Oui. Eh bien, écoutez, je crois qu'à travers vos éléments de réponse, j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas franchement convaincu que le modèle français en l'État soit transposable et envié par le reste de l'Europe. Et que vous avez quand même quelques interrogations sur la sortie de crise, ça c'est certain, mais la sortie aussi de cette période électorale où, si j'ai bien compris, vous considérez que l'essentiel des défis qui sont devant nous ont été un petit peu sortis des grandes discussions et des grands plans proposés par les candidats, ce qui nous renvoie à des rendez-vous d'après-campagne.
Sans doute.
Qui sans doute seront un peu douloureux. Enfin, en tout cas, le cercle Turgot reste optimiste et nous espère toujours très positif. Merci à vous deux.
Merci
Christian. Merci Nicolas Bouzou.